Bonjour Daniel Vessière, vous êtes en direct sur Fréquence Mistral Digne des Bains.
Bonjour.
Vous êtes dans nos studios pour parler de votre métier, vous êtes ébéniste d'art, précisément. Et de votre métier, qu'est-ce qui vous a donné goût pour faire ce qui est devenu votre passion?
C'est peut-être un peu de famille. En fait, je sors d'une lignée d'artisans, quoi. J'avais un grand-père d'un côté qui était charron, l'autre qui était staffeur, un autre qui était plombier.
Les charrons et staffeurs, c'est quoi exactement? Ce sont des métiers qui ont un peu périclité, qui sont encore d'actualité?
Les staffeurs, ça existe encore, c'est le travail du plâtre. Par ici, on va appeler ça les gypseries.
D'accord. Hein?
Et charron, ben, c'est ceux qui faisaient du charronnage. C'est ceux qui faisaient des charrettes.
Donc toujours dans le métier du bois.
Voilà, dans le métier du bois, quoi. Bon, après, mes parents à moi, mon père, il était plombier. Hein, plombier et dameur. Donc moi, j'ai bifurqué sur le côté bois, quoi.
Sur le côté charron.
Voilà. Ouais. J'avais aussi un oncle qui était tonnelier, lui, hein, qui avait fait... Donc on est toujours dans ce milieu-là, quoi. Hein. Arrivé au bac, j'ai préféré me tourner sur ce métier manuel, quoi. Hein. Donc j'ai fait une formation pour adultes et j'ai travaillé avec... J'ai travaillé avec différents artisans avant de choisir de m'installer. C'était en 82.
Donc ça fait un petit moment, ça fait 36 ans.
34.
34, oui, sinon nous ne sommes pas encore en 2018, oui.
À cette époque-là, j'avais choisi de reprendre une vieille scierie qui fonctionnait encore avec une roue à aube, qui était à la sortie de la Javie, quand on va sur Seine.
Et sur la Bléone, il y avait assez d'eau pour alimenter cette roue à aube?
C'était même pas sur la Bléone, c'était sur la Rigéole.
D'accord, donc avant, oui, le second pont. Oui.
Voilà, donc juste avant le pont, là, juste après la ligne droite. Malheureusement, elle a disparu... En 86, il y a eu un incendie. Hein, et moi, à l'époque, je passais là où je suis actuellement, c'est-à-dire au Moustéré.
Donc vous avez changé de vallée.
on s'est approché un peu de Tignes.
Et d'aller au Moustéré, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller là-bas? Parce que ça n'a rien à voir au niveau paysage. Et il y a moins d'eau, surtout au Moustéré.
Le Moustéré, c'est un cadre assez particulier, parce qu'on a la vallée qui s'élargit. Hein, donc, perché sur le bord de ce bassin, on a une vue qui est superbe. On n'est pas loin de Digne. Tout en étant hors des circuits, un peu hors des sentiers battus. Quoi. Donc, ça fait tout le charme, tout le charme. En plus, on pourrait dire que j'ai eu la chance d'arriver à m'implanter dans une bâtisse. Qui est une bâtisse de caractère. Plus précisément, on pourrait appeler ça une bastide. Hein, donc, c'était une maison noble. Une maison noble qui était déjà en place au XVIIe siècle, hein, et qui nous donne aussi une photo de la façon dont ça se passait à l'époque. Hein, rien que par la conception. Donc on a au rez-de-chaussée, on a tout ce qui était une exploitation agricole modèle. hein, avec l'étable pour les vaches, la bergerie, l'écurie, le cochonnier, hein, le poulailler, tout ça groupé autour de la cour intérieure, et des espaces de grenier. Des espaces de grenier qui étaient très importants. En plus, on a une conception qui est vraiment fonctionnelle par rapport à ça. Hein, on a des greniers, des espaces où on mettait le grain, qui sont sous la pièce principale. Hein, parce que cette pièce principale, a priori, elle devait servir, on avait des droits seigneuriaux, hein, qui étaient possédés par les propriétaires de cette maison, et donc à la limite, il est fort probable que c'était ces droits qui se payaient en nature, en grain, hein, donc les gens rentraient dans la pièce, dans l'entrée principale, pour déposer le grain qui... Il y avait deux trous qui descendait directement dans les greniers en dessous, quoi. Mmh. On a une conception comme ça qui se, on retrouve ça aussi l'endroit où il foulait, hein, qui est, c'est-à-dire, c'est au niveau de la cour, au niveau de la basse cour, hein, on rentre dans le bâtiment, à la place de prendre l'escalier, on suit un couloir, et on a un coin qui était destiné au foulage du raisin. Ben, cet endroit, c'est comme un grand baquet fait en plâtre, hein, avec un trou, et le trou correspond à la cave en dessous, directement. Hein. Donc, on a une conception qui est très fonctionnelle et représentative. Représentative parce qu'on a la basse cour en bas avec les animaux, au-dessus, les appartements... Soit du propriétaire, mais aussi les appartements des métayers, et en dessus, qui avec des séparations dans les circulations, hein, on a. Excusez-moi. On a l'étage noble. Hein, c'est-à-dire l'étage où habitaient les propriétaires.
D'accord. Et la place pour un atelier là-dedans,
c'était situé où ? Voilà. La place pour un atelier, c'est l'étable qui a été reconvertie, quoi. Hein, donc ça donne un espace où j'ai mon atelier et puis un espace de stockage.
C'est pour ça que les murs sont à nu. Ça a pierre apparente.
Absolument. Oui. Hein, disons que c'est une bâtisse que je suis en train de restaurer depuis que je suis à l'intérieur, et donc c'est un sacré boulot, quoi.
Et quand vous rentrez dans une maison, par rapport aux boisseries qu'il peut y avoir, de par votre métier, vous pouvez situer exactement quand ça a été modifié?
Ah, on peut faire tout un historique. On peut faire tout un historique. Disons que l'habitat actuel, ce qu'on appelle le vieux habitat, hein, on est grosso modo dans le XVIIe siècle. Hein, on est représentatif à partir de cette époque-là. Après, bon, il y a des ascendances. Mais, Disons que le bois a toujours accompagné. Le bois a toujours accompagné l'homme. À quelque part, ça a été un des supports de civilisation fondamentaux. Les premiers outils qu'on va trouver, et on en trouve, mettons, sur le col de l'Ourme, hein, c'est des outils qui vont servir à quoi ? Des outils en pierre qui vont tailler quoi ? Ils vont tailler pour faire de la boucherie, ils vont tailler pour travailler le bois. Et ça, c'est dès le paléolithique. Hein, donc, Un des passages fondamentaux, le néolithique, hein, où va s'amorcer la sédentarisation, l'agriculture et tout, on appelle ça l'âge de la pierre polie. Mais qu'est-ce que c'est qu'il polissait ? Il polissait des haches ou des herminettes. c'est-à-dire des outils pour travailler le bois. Et cette nouvelle technique qui va permettre d'avoir des outils beaucoup plus fonctionnels pour pratiquer la culture sur brûlis, c'est des outils à bois. Donc on a une affinité avec cette ressource naturelle.
Et dans l'histoire, avec ces outils, à quel moment les hommes ont commencé à faire des meubles? Vous savez à peu près situer?
C'est-à-dire que si le meuble, ça va commencer par l'étagère qu'on va aménager dans la hutte. Donc on est dans les balbutiements. Après, nous, ce qu'on appelle le meuble, c'est l'histoire du coffre qui va se transformer, qui va se superposer, qui va changer d'ouverture pour donner les différentes catégories de meubles qu'on a maintenant.
Et est-ce qu'il y a des traces, le bois à terme il s'use par l'usure du temps, quoi, mais est-ce qu'il y a des traces de ce travail de bois pour ces étagères, pour ces coffres encore visibles? Est-ce qu'il y a dans notre région, là vous parlez du col de l'Ourme du côté entre le Brusquet et la Javie, est-ce qu'il y a des traces de ce passage-là, quoi, des hommes qui ont travaillé et qui ont laissé ces meubles quelque part?
En fait, le col de l'Ourme, on est au néolithique. Ce qu'on va retrouver, c'est les éléments en pierre. Les éléments en bois, on ne va pas les retrouver, sauf dans les milieux humides, où ils ne sont pas au contact de l'oxygène. Et donc, ça permet de les conserver. Nous, ce qu'on a, c'est les éléments en pierre. Et là, il y a quelque chose qui, moi, je trouve superbe en tant que pratiquant, c'est que pour travailler le bois, actuellement, pour travailler le bois, on va se servir en grande partie, on va se servir d'une machine qui s'appelle la toupie. Mettons même pour les rabots électriques et tout, on a des fers à plaquettes jetables. C'est-à-dire qu'on a un support d'outils et les plaquettes qui taillent, quand elles sont usées, on va les jeter.
Oui, mais là, à l'heure actuelle, on les visse. À l'époque, comment ils faisaient pour les faire tenir?
Alors, là, on est en 2016 avec tout le fruit des processus techniques évolués, etc. Au néolithique, sur le col de l'Ourbe, on trouve des lamelles de silex qui avaient le même emploi. C'est-à-dire qu'ils débitaient des petites lamelles qui fixaient sur des supports en bois pour faire des faucilles, pour faire des couteaux. Et une fois que ces lamelles étaient usées, ils les enlevaient et ils en remettaient d'autres.
Et pour les faire tourner, cette toupie, ils servaient de l'eau?
Non, là, ils n'avaient pas de toupie. C'était des instruments strictement à main. Mais par contre, ils avaient la même technique. C'est-à-dire que, nous, on a des plaquettes jetables qu'on met sur un support et qui vont nous servir. Une fois que c'est usé, on va les changer. Eux, c'était la même chose. La conception de l'outil jetable, elle était déjà en place à cette époque-là. Avec les outils qu'ils avaient, ils avaient des mèches de forêt, et tout ça, ils les changeaient, quoi. C'est intéressant de voir que on a évolué sur les moyens à notre disposition. Par contre, on est toujours dans le même type de pratique, quoi. Moi, déjà, en tant que travaillant le bois, rien que quand je me balade dans un village, il y a déjà ce que je vais voir, c'est les portes d'entrée. Et là, on peut saisir un peu le comment ça fonctionnait. Une porte d'entrée, c'est ce qui va... c'est l'ouverture qui va permettre d'accéder à la maison.
Et l'accueil. Hein,
voilà. Donc, c'est ce qui va... c'est ce qui va... comment dire... ça va être très démonstratif. Une porte d'entrée, c'est le rang social qui va s'affirmer par sa position dans la façade, par ses dimensions. Hein, on a là un marqueur social.
Alors que vous dites que si une porte est désaxée par rapport à une façade, c'est le niveau social qui change ?
Ben, c'est-à-dire que si elle est désaxée, c'est parce qu'on va faire place à la porte cochère. Donc, on va être dans une maison où il va y avoir deux éléments. Hein? On ne va pas être dans une maison de pure habitation. Hein? Donc, déjà, on a une classe sociale. Et puis, dans la façon de faire cette porte, dans ses dimensions, dans la façon de la concevoir, on va avoir une affirmation. Hein? L'affirmation d'un statut. Hein, déjà, les portes à l'époque, elles étaient faites à panneaux. Mmh. Hein, c'était des panneaux, donc des panneaux horizontaux en façade, transversaux à l'intérieur, qui étaient cloués, comment dire, d'une façon spéciale, qui servaient aussi à agrafer, quoi. C'est-à-dire, on fait dépasser le clou, on le retourne et on le renvoie. Et donc, on a un système d'agrafe, quelque chose qui garantit, mettons la porte du château, là, du Moustéré, elle est montée comme ça, et c'est une porte qui date du XVIIe. On avait donc ces panneaux qui étaient cloués avec des moulures qui faisaient couvre-jouet et qui allaient agrémenter, qui allaient donner une esthétique. Hein. L'intérêt là-dedans, si on a une porte large, si on a des panneaux larges, plus on a des panneaux larges, plus ça va être une affirmation
de
la richesse. D'accord. Hein. Parce que pour avoir des panneaux larges, quand vous avez une porte qui fait 2 mètres ou 2 mètres 20 de haut, il faut que le panneau il soit large à 2 mètres 20 en haut. Si vous avez un plateau, quand vous voyez une bille de bois, là on est dans des bois de qualité. Hein, c'est-à-dire qu'on va travailler essentiellement dans du noyer, qui est le bois représentatif ici, hein, et ou sinon dans le mélèze. Hein, bon, pour avoir des panneaux larges, c'est dans le noyer surtout qu'il va falloir taper. Hein, et des arbres qui ont poussé pendant longtemps, c'est-à-dire qui ont été réservés. La plupart des arbres, quand on est dans des catégories comme ça, on est dans des arbres qui ont 100, 150, 200 ans, qui ont été restés en place, donc qui n'ont pas été coupés.
Et pour faire ces panneaux, parce que les panneaux, vous parlez de la largeur, mais quelquefois, ça ne fait pas vraiment la largeur. Est-ce qu'il y avait des techniques de collage à l'époque pour élargir ces panneaux pour ces portes ?
Là, on emploie un mot.
D'assemblage.
Le collage.
Ou d'assemblage.
Le collage. Pour moi, disons que moi, dans ma recherche, c'est d'essayer, dans ma profession, ce que j'essaye, c'est de faire perdurer certaines techniques. Parce qu'il y a quelque chose qui pour moi me semble essentiel. On a des moyens techniques développés. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire des meubles qui ont la qualité et la tenue de ceux qui faisaient sans ces moyens techniques?
Et comment ils faisaient alors sans ces moyens techniques que nous avons actuellement pour les faire tenir?
Ben voilà, c'est une conception, c'est une histoire de conception, hein, où on travaille pour valoriser au maximum la matière première, et à l'époque ils étaient au ils étaient peut-être obligés de le faire. Mais bon, c'est tout ce savoir qui s'est développé à cette époque-là, jusqu'à ces époques-là. Et on arrive au XVIIe. Au XVIIe, on est au summum du développement technique du travail du bois. Et on a des assemblages qui arrivent à ce moment-là, type les assemblages à coupe d'onglet, qui sont utilisés à cette époque-là. On est là au summum. Après, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir qu'on va développer, surtout le travail de façade, le travail de décoration. Mais on va le développer en simplifiant tout ce qui est assemblage, puis on va arriver à des assemblages collés. Et c'est là qu'il y a la différence. C'est là qu'elle se fait. Un meuble, moi, je le fais, je le cheville, je vous le garantis, 100, 200, 300 ans. Si vous l'entretenez bien, si les gens l'entretenent bien, il n'y a pas de problème.
Et il est démontable.
Il est démontable. Et s'il y a quelque chose, on le démonte, on refait. Un meuble collé, moi je vous le garantis pas, c'est tout. Je vous le garantis 50 ans si vous voulez, mais par rapport aux possibilités qu'on peut avoir dans le rapport avec une matière première, il y a pas de comparaison quoi. Alors ça veut dire peut-être des épaisseurs un peu plus importantes. Mais pour moi, artisan, qu'est-ce que c'est qui va compter ? C'est de mettre 5 mm de plus ou 1 cm de plus. Si je sais que ça va durer, il n'y a pas de problème, quoi. Là où ça va compter, c'est pas moi sur ma fabrication, ma petite fabrication, ça n'a aucun impact, ou pratiquement pas. Là où ça a de l'impact, c'est dans l'industriel. Et c'est là qu'on a une différence. On a un mode de production qui n'est pas le même.
Et quand vous voulez faire un meuble, quand vous avez votre bille de bois, est-ce que vous essayez de voir le veinage qu'il y a sur cette bille de bois pour le travail que vous imaginez fini ?
Ben voilà. Disons que déjà, moi, je travaille avec des billes de bois. C'est-à-dire que ce n'est pas des tas de planches. C'est un arbre. Et donc là on va avoir une logique. Quand je vais chercher le bois pour un meuble. Donc si ce meuble, mettons, il est galbé, eh bien, je vais chercher des veinages qui vont correspondre plus ou moins à ce galbe. C'est là qu'il y a une différence. Moi, je fais un meuble pour quelqu'un. Je fais pas un produit. Moi, mon travail, il est fait. C'est pas quand j'ai vendu le meuble. C'est quand je suis sûr que les gens vont l'apprécier et vont l'entretenir. Mon boulot, c'est ça. C'est pas de vendre des meubles, c'est de les faire apprécier. C'est que les gens, ils aient ce qu'ils veulent dans les mains, et qu'ils l'entretiennent. Parce que mon boulot à moi, c'est de valoriser une matière première. Parce que cette matière première, ben, c'est une matière première qui est, qui est nécessaire à la vie.
Et vos clients, quand ils vous commandent un meuble, ils vous donnent carte blanche, vous les voyez plus de la commande jusqu'à la livraison? Ou est-ce qu'ils viennent voir le travail que vous faites de temps en temps ?
Ben, je sais pas, mais vous m'avez rencontré quelques fois.
Mais moi, je suis pas client pour le moment.
Vous êtes pas client, mais bon, moi, quand on me branche sur le bois,
c'est pour ça que vous êtes là.
Voilà. Donc, avec mes clients, c'est bon. Il me laisse carte blanche. Mon boulot, c'est de savoir ce qu'ils attendent, et de traduire ça. Alors, bien entendu, moi, je vais amener ce qu'on appelle une pâte. Hein, c'est-à-dire que j'ai une démarche qui, à quelque part, ils viennent chercher une démarche. Hein. Donc moi, je vais le traduire, je vais retraduire un peu ce qu'ils me disent. On va faire un dessin, hein, et à partir de ce dessin, je monte le meuble. Mais le dessin, c'est le fruit d'une...
un échange.
D'un échange. C'est le fruit d'un échange. Hein. Donc, souvent, je vais voir où le meuble va se placer, etc. Hein, pour arriver à se comprendre. Hein, donc, c'est... Et bien entendu, que si les gens sont prêts, ben, y a des visites à l'atelier. Parce que, bon, entre un meuble fini et un meuble qui est en train de se faire, y a tout ce qui va disparaître, tout ce qui est...
Et du côté carte blanche qu'il y a au départ, quand ils viennent vous rencontrer... Est-ce qu'il y a des modifications qui peuvent être apportées à ce meuble que vous êtes en train de faire de vos mains par rapport à la conversation que vous avez avec vos clients ?
Ça c'est... dans le meuble, quand je commence à prendre ma première planche, je sais exactement toutes les opérations qu'il va y avoir jusqu'à la fin. Pour faire un meuble, il faut on a en main différentes techniques. Chacun a les siennes. Hein, chacun a bon. Il y a un corps commun qui existe, et à partir de là, chaque ébéniste va avoir sa façon de fonctionner. Il y a plusieurs façons de concevoir les choses. Par contre, une fois que vous commencez un meuble, c'est que vous maîtrisez toutes les opérations.
Je parlais au niveau des... d'enjoliver un petit peu, des moulures qui changent. C'est ça dont je vous parlais, pas le meuble en entier.
Ouais. Voilà. Oui. Après, effectivement, il y a des choses qu'on va mettre au point à un certain moment. Parce que sinon, ça demande des efforts de visualisation, hein, qui sont beaucoup plus abordables une fois qu'on a l'élément direct, hein, parce que même un dessin, là je suis en train de faire un meuble, une bibliothèque, bon, qui fait 2,60 m de long par 2,10 m de haut. Un dessin, c'est très... il n'y a pas de problème, quoi. Mais quand vous commencez à développer un volume comme ça, il y a une dimension, hein, directement, qu'on s'en rend compte directement. Ce qui n'est pas forcément visible dans un dessin à l'échelle, hein, on le sait.
Puis c'est de la tridimension, tout ça.
Absolument, absolument. Puis on peut savoir les choses, mais que ce soit palpable, c'est autre chose, quoi. Hein. On a une vision intellectuelle, hein, une projection, mais quand on a la projection réellement devant soi, là c'est différent. Ça fait que, bon, effectivement, c'est une conception par étapes. Donc il y a certaines étapes qui peuvent se définir à certains moments.
Et quels sont les outils que vous utilisez pour faire ces meubles ? Parce que dans vos ateliers, vous avez toupies, dégauchisseuses, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres métiers, d'autres outils moins connus dont vous vous servez pour faire des meubles ?
Moi, les finitions, je les fais au racloir. Bon, le racloir, comme je vous disais, c'est un des premiers outils qui va être fait. Hein. On trouve les racloirs en silex, hein, c'est monnaie courante dans la trousse d'outils du néolithique. Hein, c'est tout à fait représenté. Donc, déjà, bon, bien entendu, il y a les gouges. Hein. Mais c'est aussi...
Les gouges, pour nos auditeurs, c'est comme un ciseau, mais creux.
Voilà, c'est un ciseau qui va avoir différentes formes, hein, essentiellement des arts de cercle ou les burins, c'est un V, quoi, hein, mais et différentes façons de les affûter, quoi, hein. Donc ça c'est l'outil par excellence du sculpteur. Hein. Parce que je, à ce niveau-là, en fait, bon, on parle d'ébéniste, mais ça, c'est l'acceptation actuelle. C'est l'acceptation actuelle parce que, en fait, ébéniste, ça vient d'ébène. Ébéniste, c'est une profession, une spécialisation dans le travail du bois qui va se faire jour sous Louis XIII, hein, avec l'apparition de ce qu'on appelle, rapidement, le style Louis XIII, les premières marqueteries, hein, avec ce qui est encore une école actuellement, l'école Boulle. Hein, donc la marqueterie Boulle, qui va apparaître à cette époque-là, elle va utiliser des bois d'exportation, hein, et donc les bois exotiques. Hein, et la caractéristique, ça va être l'ébène. Hein, donc, on va les appeler les ébénistes. Donc, l'ébénisterie, bon, ça va évoluer, et maintenant, ça va représenter ce qui est le travail fait. Hein. En fin de compte, moi, ma profession, je ne travaille pas les plaquages, je ne travaille pas la marqueterie. C'est dans les styles régionaux, la marqueterie, c'est une technique citadine. Hein, un meuble régional, on est dans du meuble massif.
Oui, la marqueterie, c'est plus pour masquer un bois moins noble.
C'est pas, comment dire, c'est plutôt une question de fonctionnalité. C'est une démarche qui est totalement différente. C'est là que j'avais un peu réagi aussi au terme de collage. Hein. On est dans deux façons d'appréhender le travail du bois. Hein. Une part, quand vous travaillez en collage, vous travaillez, vous créez des points durs. Hein. En marqueterie, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une âme en bois, on va coller du plaquage avec des dessins, avec des motifs marquetés d'un côté, mais on va contre-coller de l'autre pour arriver à équilibrer, parce que sinon votre support il va se cintrer. Hein, la colle et le tir. Hein, donc on a une façon d'équilibrer. Hein, dans le bois massif, si vous créez des points durs, le bois massif, c'est pas un bois qui est inerte. Hein, c'est un bois qui va réagir avec l'hygrométrie, avec l'exposition au soleil, etc. Hein, donc la question, ça va être où on va comprimer cette force, on va créer des points durs pour la bloquer. Ça va bien pendant 20, 30 ans. Mais, comment dire, cette force, elle continue. Elle continue. Une planche, elle réagit tout le temps. Même au bout de 200 ans, elle va réagir.
Justement, en parlant d'hygrométrie, quand vous faites un meuble, donc le bois que vous avez au Moustéret, il va se déplacer, puis vous allez le livrer. Vous choisissez là où a poussé l'arbre, enfin, là où a été entreposé l'arbre et votre bille, pour savoir où va être livré ce meuble, parce que le meuble, comme vous dites, travaille, donc vous le faites au Moustéret. Si vous le livrez à Digne, il va réagir différemment que si vous le livrez à la Javie, au Bousquet. Absolument. Ou à Drex.
Oui, ou à Marseille.
Ou à Marseille, si vous voulez, oui, ce que l'on vous souhaite, quoi. Mais comment vous faites pour choisir ces billes de bois?
Non, ben voilà. C'est là où... on est tout à fait dans ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que on a deux solutions. Ou on crée des points durs par collage, Hein, et qui dit point dur dit un affrontement entre les forces qui vont régir ce bois et le collage, hein, où on va travailler à équilibrer. Hein, on va trianguler. Hein, c'est-à-dire, et ce qui va nous permettre de que ces forces, elles s'équilibrent, donc elles s'annulent à quelque part.
Ah, comme c'est de la physique.
C'est de la physique. C'est-à-dire, et c'est là que je parlais, moi je travaille des billes. Une bille, c'est un arbre. Hein, mais c'est un arbre qui a un équilibre. Hein, pour pousser, pour tenir, il a une énergie, il a un équilibre. Hein. Cet équilibre, il va être marqué. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit un dessin, etc., hein, le dessin du veinage, hein, qu'est-ce qu'on a? On a aussi une construction, un assemblage physique. Et c'est là que on peut arriver à comprendre comment ont évolué ces techniques-là. Parce que quand on va faire un panneau, moi quand je fais un panneau, je vais prendre deux planches, s'il me faut les assembler, je vais prendre deux planches, je vais ouvrir ma bille de bois. Donc je vais prendre deux planches qui se suivent en les ouvrant. Et donc je vais avoir une symétrique. Une symétrique, alors, qui va, au niveau esthétique, hein, qui va faire, comment dire, qui on va pouvoir apprécier le veinage, les dessins du veinage, mais c'est aussi physique. Physique, parce que, bon, on a ces forces qui sont symétriques aussi. Hein, et donc, une fois que vous ouvrez votre bille, que vous assemblez ces deux planches, vous travaillez avec un équilibrage. Hein. Et en fait, toute la conception du meuble en massif, c'est qu'il puisse travailler. Mais on va accompagner ce travail. On va pas essayer de l'empêcher. Hein. Par contre, on va l'accompagner. On va... C'est une collaboration.
C'est pour ça que les panneaux, de par votre métier, quand vous les faites et que vous les mettez dans vos portes de meubles, vous ne les collez pas.
Ah, surtout pas. Voilà. Ah, surtout pas. La seule chose où j'admets le collage, c'est mettons pour réunir deux panneaux. Parce que dans l'acceptation actuelle, ce serait un peu trop demander aux gens de ne pas coller les panneaux entre eux. Mais comment dire? Mais après, le panneau, il est libre. Hein, et les assemblages de la porte qui sont faits, c'est des systèmes d'enclavement, c'est des tenons, mortaises, hein, on va creuser une mortaise et en contrepartie un tenon qui va rentrer à l'intérieur et qui va être clavé par une cheville qui traverse le tout. Tout ça, c'est fait en fonction d'une matière qui n'est pas inerte, hein, donc on va pouvoir dans la mesure où on a quelque chose d'harmonieux, hein, on va pouvoir travailler sans poser de problème.
Et ça, hein. Vous, les clients qui viennent vous commander vos meubles, ils sont dans la même philosophie que vous? Vous leur expliquez un petit peu, pas donner un cours d'histoire, mais donner un petit peu des conseils, entre guillemets, par...
Oui.
Voilà.
Oui, oui. Ben, disons que s'ils viennent me voir, c'est qu'ils s'interrogent à quelque part. Hein, qu'ils ont, bon, et j'essaye de leur communiquer. Hein, non, mais aussi avec des conseils, quoi. Hein, c'est une hérésie que de vernir un meuble massif.
Hein, vous préférez le patiner?
Si. On a des produits à notre disposition, hein, comme la cire, comme l'huile de lait, les huiles, hein, bon, surtout l'huile de lait, qui nourrissent le bois. Quand vous passez un vernis, vous le mettez sous cloche, votre bois. Hein? Alors l'important, c'est pour, je dis pas, le vernis, ça a ses qualités. Mais sur des meubles marquetés, des meubles qui ne vont plus bouger. Hein? Un vernis, il faut que ce soit inerte.
Quelque part, ça condamne le bois.
Ah si.
Dans
une pellicule que vous mettez dessus. Quand vous avez un meuble verni, vous avez plus le contact avec le bois.
Vous n'avez plus cette sensation.
C'est un film que vous mettez par-dessus, quoi. Hein. Donc, l'intérêt, une qualité de vernis, c'est qu'il fasse vraiment un film.
Et vous, donc, vous parlez d'utiliser de la cire, de l'huile de lin. C'est vous qui définissez le travail que vous allez livrer, ou justement cette finition, cette dernière touche, vous la mettez au point avec vos clients qui vous disent je préfère ça, ou c'est vous, par rapport au veinage que vous proposez, l'essence de bois, c'est vous qui dites je vais mettre ça?
Mais disons que la finition, il y a deux choses. Il y a la teinte, et après il va y avoir le produit de finition pour nourrir et pour protéger. Hein? Donc la teinte, ça c'est quelque chose qu'on va voir avec le client. Hein? Par contre, mais il n'y a pas de client qui me demande de vernir.
Non, je ne parlais pas de vernir, je parlais de finition avec le...
Oui, voilà. Hein? Donc ça c'est des choses qu'on va voir avec le client aussi, parce que là aussi on a, on a un effet de masse. Quand vous avez un meuble qui selon les dimensions, selon le volume, la teinte c'est quelque chose d'important.
Ouais, parce que l'essai de teinte sur un petit morceau, c'est quelque chose.
Ça donne une idée.
Quand vous avez un meuble comme voilà. de 2,60 m comme vous proposez,
oui.
C'est plus de la même façon.
Même on peut y aller pas à pas, quoi. Hein, mettons, faire quelque chose de clair et le foncer à mesure, ça c'est... disons qu'en plus, bon... moi, ce que j'essaye, c'est de travailler les bois locaux. On est dans une région où on a des ressources qui sont superbes. Hein. Historiquement, c'est quand même nos régions qui ont été, les bassins de ressources au niveau du Moyen-Âge de toute la côte. Hein, les bois, ils descendaient d'ici, quoi. Hein, et même, on a l'exemple de la Syrie, de l'abbaye de Faillefeu au XIIe siècle. Hein, c'était un des plus importants exploitants forestiers, quoi. Hein, avec deux scieries hydrauliques qui fonctionnaient au XIIe siècle. Hein, et les bois qui étaient flottés, hein, à partir de Prats, donc on est à partir de Prats, ils descendaient la Bléone, hein, et ils descendaient jusqu'à la côte. Hein, on avait un port au Mai. Au Mai, il y avait un port où il y avait toutes les billes de bois qui, sur la Durance, là, qui descendaient après et qui étaient flottées, quoi. Hein. Donc, on a toute une, enfin, ça a été une ressource naturelle primordiale dans le coin. Hein. Et quelque chose qui s'est effiloché il y a très peu de temps. Parce que la Syrie que moi j'ai eu à main, c'était des Syries comme ça qui fonctionnaient dans chaque village il y a une centaine d'années. Hein, donc on a tout un réseau. Hein, voilà. Donc moi en tant qu'ébéniste dans le coin, je ne peux qu'être sensible à ce genre de choses.
À ce que vous voulez dire pour nos auditeurs que c'est essentiellement le mélèze ou le noyer, chêne, c'est importé.
Ah ben essayez de travailler un chêne d'ici. De toute façon, le chêne ici, on le retrouve que dans les bois, que dans les bois de coffrage. Que dans les bois de coffrage, il servait pour soutenir les plâtras dans les maisons, mais il n'y a que là qu'on le retrouve. Hein, pour trouver du chêne qui est menuisé, c'est-à-dire travailler à menuiserie, il faut descendre du côté de Manosque, parce que au plus tôt, quoi. Hein, et c'est vrai que le chêne ici, ça va marquer l'arrivée du chêne ici, ça va marquer la destruction, hein, la disparition des ressources locales, hein, de tout ce réseau. De Syrie, etc. Mais ça arrive aussi avec les routes, parce que bon, il faut se rappeler que la route, mettons, des Clus de Barle, elle a eu 100 ans il y a 2 ans, quoi. Hein, donc, c'est toute une ouverture et toute une disparition de ce genre de réseau. Mais on a un cadre de vie spécial, on est peut-être un peu éloigné des grands centres urbains, mais par contre, on a des matières premières à notre disposition qui sont quelque chose de... Enfin, moi je, ça fait plus de 30 ans que je le travaille et je suis toujours aussi... aussi enthousiaste là-dedans. Quoi.
Et pour donner encore plus d'enthousiasme à nos auditeurs, s'ils veulent vous contacter, par quel biais ils peuvent vous joindre ?
Donc j'ai le téléphone,
par exemple.
Donc on peut me contacter soit au 04 92 35 40 08 ou sur mon portable au 06 01 94 68 36. Sinon, j'ai un site internet. Bon, que je suis en train de monter, c'est meubleprovençal.fr, hein, et une adresse mail, c'est vessière, alors vaisierre.dan@hotmail.fr.
Merci Daniel. En espérant que vous ayez donné goût à tous nos auditeurs de Fréquence Mistral, parce que c'est infini ce que vous pouvez dire. Et comme je dis à toutes les personnes qui sont nos invités, qui viennent nous voir ici à Fréquence Mistral, la porte vous est ouverte si vous voulez revenir dans la matinale pour parler un petit peu plus à même de ce que vous présentez. Et à bientôt.
À bientôt.